Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour votre premier grand jury, à mes côtés, pour vous interroger, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Bonjour Christophe.
Bonjour.
En fin de première partie, dans notre rubrique La question en plus, c'est Cécile Duflot, ancienne ministre et aujourd'hui directrice générale de l'ONG Oxfam, qui vous interpellera, Madame la Ministre, sur la question des migrants. Et puis, nous retrouverons en fin d'émission, comme chaque dimanche, Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL pour questions nettes, vos commentaires, vos questions à la ministre des Affaires européennes. Vous pouvez toujours réagir en direct sur tous les réseaux sociaux, hashtag Le Grand Jury. Alors Nathalie Loiseau, en juin 2017, vous êtes devenue ministre un peu par accident quand votre prédécesseur a dû quitter ses fonctions pour cause d'affaires judiciaires. Mais un an et demi plus tard, vous seriez devenu indispensable au président de la République au point qu'il pourrait vous choisir pour mener la liste en marche pour l'élection européenne. Tout sauf une sinécure quand on sait que vos principaux opposants veulent en faire un référendum anti-Macron. Pas sûr cependant que cela vous effraie, vous en avez vu d'autres et dès le plus jeune âge, sans rentrer dans le détail de votre vie, vous avez grandi dans l'ombre d'un frère à qui tout a été donné, tout a été permis, vous le racontez dans un livre publié il y a quelques années, quand vous n'aviez droit, vous, qu'à la portion congrue, qu'à cela ne tienne, précoce, vous avez dépassé l'aîné. Un tempérament de fer qui vous a en effet conduit aux plus hautes responsabilités, diplomate de carrière pendant 26 ans, parfois dans des moments de grande tension, aux États-Unis par exemple, pendant la guerre d'Irak. Proche d'Alain Juppé, vous avez été la deuxième femme à diriger l'ENA, avec une particularité tout de même, vous n'en êtes pas vous-même diplômée. Une femme dans une énarchie qui reste très masculine, dans une Macronie dominée aussi par les hommes, le féminisme est d'ailleurs l'un de vos combats. Bref, Nathalie Loiseau, vous aimez les défis. Je vous ai choisi parce que vous êtes têtue, vous aurez dit. Mais vous aurez même lancé Emmanuel Macron, vous confirmez à ce micro, visiblement par un hochement de tête. Alors, tête de liste, justement ou pas, le 26 mai prochain, vous avez la lourde tâche de réconcilier les Français avec l'Europe. Bruxelles fait aujourd'hui figure de chiffon rouge pour des gilets jaunes. Nous en parlerons dans cette émission, mais on revient tout d'abord sur la nouvelle journée de mobilisation de ces mêmes gilets jaunes. Hier, c'était l'acte 12. La question, Christophe Jacubizine.
Oui, samedi après samedi, des manifestations, des confrontations avec les forces de l'ordre. Hier, une grenade de désencerclement a touché un des lycéens, chef de file des lycéens. Jean-Luc Mélenchon parle de président flashball. En parlant d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre ?
À Jean-Luc Mélenchon, qui s'occupe du président Maduro, qui fait tirer à balles réelles sur son peuple, et qui est l'idole de Jean-Luc Mélenchon, ce qui s'est passé hier, c'était présenté comme des manifestations contre les violences policières. Et ça s'est terminé en violence contre les policiers. Pour moi, il y a une incohérence. Vous avez parlé du jeune lycéen qui a été atteint hier. Il est sorti de l'hôpital avec des antalgiques, je m'en réjouis. Rien ne permet de dire aujourd'hui qu'il a été touché par une grenade de désencerclement. Ceci étant, chaque blessé est un blessé de trop. Que ce soit du côté des forces de l'ordre, il y en a plus de 1200, du côté des manifestants aussi. Alors de quoi avons-nous envie ? Que veulent les Français ? Un débat apaisé ? On doit pouvoir parler de tout, on doit pouvoir tout se dire. C'est ce qui se passe aujourd'hui, oui, il y a un grand débat.
Sauf que les lanceurs de balles de défense, beaucoup de pays européens ne les utilisent pas. Nous sommes l'un des seuls pays importants à utiliser ce mode d'action pour le maintien de l'ordre public. Est-ce que c'est normal, Madame Loiseau ?
Mais quand les utilise-t-on ? Depuis quand parle-t-on des lanceurs de balles de défense ? Depuis qu'il y a des violences contre les forces de l'ordre qui sont attaquées, à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes. Il y a pu y avoir des manifestations au moment de la réforme de la SNCF. Il y a pu y avoir des manifestations sur beaucoup de sujets de la part de beaucoup de types de Français sans que ce sujet ne soit jamais à l'ordre du jour parce que jamais les manifestants n'avaient attaqué les forces de l'ordre avec la violence que l'on voit semaine après
mais
semaine.
Mais c'est vrai qu'un certain nombre d'experts, de façon non polémique, disent, tout en justifiant l'usage de ces balles de défense, disent qu'il faudrait peut-être former davantage les policiers qui ne sont pas forcément formés au maintien de l'ordre à l'usage de ce type d'armes intermédiaires. Même chose pour les grenades des encerclements qui disent franchement là c'est pas absolument utile. Alors, je pense à Alain Bauer, qui est un criminologue, qui n'est pas, c'est pas polémique, ce genre d'interrogation.
Et je ne suis pas sûre qu'Alain Bauer soit un spécialiste du maintien de l'ordre. La question qui est posée, c'est l'usage. Et quand il y a une interrogation sur l'usage, il y a une mission de l'inspection générale de la police nationale. Et si nécessaire, il y a des enquêtes, il y a des poursuites.
Est-ce qu'il peut y avoir une commission d'enquête parlementaire, par exemple?
Écoutez, il peut toujours y avoir, les parlementaires peuvent toujours décider de faire une commission d'enquête s'ils le souhaitent. Moi, ce que je souhaite, c'est d'une part qu'on rende hommage à des forces de l'ordre qui, depuis 12 week-ends, sont sur le pont, sont ultra mobilisées. Et là où vous avez raison, c'est que quand partout à travers la France, il faut des forces de l'ordre, on n'a pas seulement sous la main des spécialistes des manifestations gendarmes violentes. C'est vrai. Moi, j'ai rendu visite à des commissariats de police où j'ai vu des gens dont le mot d'ordre, c'était « nous voulons servir avec honneur ». Et je voudrais le dire aujourd'hui, et je voudrais vraiment leur rendre hommage. Ils sont sursollicités, ils sont sous pression. C'est pour ça que moi, je ne suis pas allée manifester la semaine dernière contre les violences pour la République. Je suis évidemment contre les violences et pour la République, mais je ne voulais pas que les forces de l'ordre aient encore à gérer une manifestation de plus.
En lien avec ces violences, la loi anti-casseurs qui doit être normalement votée mardi à l'Assemblée nationale, Christophe Jacubizine.
Et qui est critiquée au sein même de La République En Marche, puisqu'il y a un député qui s'apprête à voter contre, Adrien Taché. Puis on a entendu le centriste Charles Amadier de Courson comparer cette loi avec les mesures de Vichy. Est-ce que ça vous a choqué?
Ça veut dire que Charles Amédée de Courson n'est plus centriste ou qu'il ne connaît plus le sens des mots. Et on est dans une période où les gens ont perdu le sens des mots. De la même manière que quand j'entends des manifestants dire qu'ils ont été gazés, pour moi, être gazé, il y a un sens à ce mot-là. Et ce sens, il date de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne peux pas supporter. J'ai été manifestante. J'ai déjà pris des gaz lacrymogènes dans la figure. Je n'ai jamais considéré que j'étais gazée.
Quand avez-vous manifesté, Madame Loiseau? Ceux qui vous écoutent et vous entendent, et vous regardent, s'interrogent là, à l'instant.
Comme toute étudiante, j'ai manifesté à plusieurs reprises sur des causes diverses. Et j'ai fait connaissance avec les effets secondaires désagréables des gaz lacrymogènes. Je m'en suis remise et j'y suis même retournée. Mais je n'ai jamais pensé que j'étais gazée.
C'était contre quelle loi à l'époque?
Écoutez, il y a eu pas mal d'occasions pendant lesquelles j'étais dans la rue. Ce serait peut-être un peu long de les lister.
D'accord. Mais sur la loi anti-casseurs.
Non, mais sur la loi anti-casseurs.
Un certain nombre de personnalités disent remettre tant de pouvoir au préfet, c'est-à-dire permettre au préfet d'interdire de façon préventive à certaines personnes de participer aux manifestations, c'est excessif. Il vaudrait mieux le donner à un juge judiciaire. Et c'est dangereux si, d'aventure, un gouvernement moins respectueux des droits de l'homme venait au pouvoir.
C'est ce que dit André Attaché, de votre majorité, aujourd'hui, dans les pages du journal du dimanche, en disant qu'il ne votera pas cette loi parce qu'elle nous éloigne, dit-il, des principes fondamentaux.
C'est ce que dit Aurélien Taché, qui est un ami avec qui je travaille beaucoup, souvent, sur les questions de migration et d'intégration. Je ne partage pas son point de vue parce que ce que cette loi prévoit, c'est de pouvoir interdire préventivement des gens qui ont été identifiés comme violents par leur comportement dans des manifestations, de se rendre à nouveau et pour une période limitée dans des manifestations. C'est ça que prévoit la loi. Et les interdictions qui peuvent être prononcées par des préfets sont passibles de recours devant le juge administratif sous 48 heures. Donc la liberté, protéger la liberté, c'est protéger les manifestants contre les casseurs, c'est protéger les Français contre des destructions dont on a vu que depuis novembre, elles ont lieu toutes les semaines. Hier encore, destruction, pillage, il y en a eu dans de nombreuses villes de France. Est-ce qu'il faut rester passif? Ma réponse, c'est non.
Vous nous disiez qu'il y avait une mobilisation très forte des forces de police. C'est pour ça que vous n'avez pas participé à la manifestation de la semaine dernière. On lit ici ou là que cette mobilisation pourrait être préjudiciable à la lutte contre le terrorisme, que ça démobiliserait certaines forces pour se concentrer sur cette tâche d'antiterrorisme. Est-ce que ce n'est pas une manière de culpabiliser aussi des manifestants d'aller manifester librement?
Écoutez, le droit de manifester, c'est un droit absolu. C'est une valeur fondamentale de notre République et j'y suis particulièrement attachée.
Mais c'est vrai que
je n'irai pas dire que parce que il y a des manifestations, on ne peut pas lutter contre le terrorisme. Je veux en revanche rappeler que si nous étions encore sous état d'urgence, ces manifestations seraient interdites.
Mais vous vous félicitez qu'on ne le soit pas sous état d'urgence?
Je me félicite qu'on ne le soit pas, mais je préfère rappeler que pour les forces de l'ordre, pour leur permettre de faire leur métier au quotidien, savoir que tous les samedis, ils sont sur le pont, qu'il y a plus de 1200 gendarmes et policiers qui sont blessés aujourd'hui. Et encore hier, il y en a eu plusieurs, et au moins un gravement. Je trouve que ça suffit.
Donc vous dites aux Gilets jaunes, allez au débat. C'est ça que vous leur dites, n'allez plus dans la rue.
Et n'interdisez pas les débats. Parce que ce qui s'est passé à plusieurs reprises hier, ce sont des débats qui n'ont pas pu avoir lieu parce que des Gilets jaunes ont refusé que des Français débattent entre eux, y compris quand certains Gilets jaunes étaient dans le débat.
Où ça,
je ne peux pas comprendre.
Loiseau, où ça,
en province. Et ça a été documenté. Et je ne peux pas comprendre, je ne peux pas admettre que l'on empêche les gens de débattre. On n'est pas républicain.
Des réunions du grand débat qui ont été empêchées par des Gilets jaunes.
Qui ont été empêchées par des Gilets jaunes hier, alors même que d'autres Gilets jaunes souhaitaient y participer.
Que vous, nous dites.
Vous le trouverez dans la presse quotidienne régionale. Ça ne me revient pas à l'esprit aujourd'hui. Mais il y a eu deux cas hier. Des réunions n'ont pas pu se tenir parce que des gens qui portaient un Gilet jaune, je ne généralise pas. Je ne dis pas que tous les Gilets jaunes sont d'accord avec ça. Manifestement, il y a beaucoup de dissensions entre les Gilets jaunes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où des Français ont envie de débattre, le prouve, il y a déjà plus de 4000 débats enregistrés, les gens sont passionnés par ce débat, et bien qu'on laisse ce débat se dérouler, sinon ça veut dire qu'on n'est pas républicain.
Alors, sur le grand débat, justement, Alexis Brézé.
Justement, ce grand débat, vous le dites, a l'air de plutôt prendre. La question, évidemment, que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est sur quoi tout ça va déboucher. Le président de la République, à travers diverses interventions, commence à dire « mais on ne touchera pas à un certain nombre de revendications qui sont déjà sur la table, l'ISF, le référendum d'initiative citoyenne ». Du coup, quelles mesures vous seront prises après ce grand débat? Dans quel domaine?
Le grand débat n'est pas terminé. Si j'étais déjà en train de vous faire ma liste de courses alors que les Français sont en train de faire leurs propositions, ça voudrait dire
Mais le président, lui, ferme des portes. Il a rencontré quelques journalistes politiques cette semaine et il a expliqué que, notamment en matière économique et sociale, tout avait été fait le 10 décembre avec les 10-12 milliards d'euros d'annonces et qu'il avait fait sa part et que désormais on n'allait plus toucher à la politique économique et sociale. Est-ce que ça ne ferme pas un peu le débat?
Il n'a pas dit qu'on n'allait plus toucher à la politique économique et sociale. Il y a 4 chapitres dans le grand débat. La transition écologique, qui préoccupe tout le monde. Nous voulons tous lutter contre le réchauffement climatique. Au moment où on passe aux mesures concrètes...
Ce n'est pas au sommet des priorités des Français dans les sondages, comme vous le savez.
Ah, écoutez, non,
regrettable, mais c'est comme
ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'ai fait, si j'ose dire, la première expérience de débat à travers la France, je l'ai faite l'année dernière, pendant 6 mois, les consultations sur l'Europe. Il y a eu 1100 débats. La première préoccupation des Français, c'était la transition écologique. Quand je vais voir des agriculteurs, c'est la première chose dont ils me parlent, parce qu'ils voient aujourd'hui les effets du changement climatique sur leur récolte, sur le manque d'eau.
Mais en tous les cas, il est très cadré, ce débat.
Non.
Et il y a 4 thèmes principaux.
Mais tout le monde peut parler de ce dont il souhaite parler. Et d'ailleurs, beaucoup de gens parlent d'Europe à l'occasion de ce grand débat, parlent d'autres choses. On interdit à personne.
L'Europe n'est pas un sujet.
On est d'accord que, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne, qui est une revendication assez largement portée dans ce débat, le président de la République et le Premier ministre ont dit ça, on ne le fera pas.
Le président et le Premier ministre ont dit qu'ils se réservaient de voir quelles seraient les réponses au grand débat.
Ça me hérisse, donc ça n'a pas l'air d'être...
Il dit que ça le hérisse.
Et vous, est-ce que ça vous hérisse aussi ou pas? Est-ce que c'est votre truc ou pas, le RIC?
Alors, ce qui est d'abord mon truc, comme vous dites, c'est la démocratie représentative. Nous avons des institutions, nous avons un Parlement, nous avons des députés, nous avons des sénateurs qui sont là pour représenter le peuple. Ce que je constate, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise générale de la représentation. Ce qui est en cause, la défiance qui s'exprime aujourd'hui, et on le voit dans des sondages, on le voit dans la rue, c'est une défiance vis-à-vis de la classe politique dans son ensemble, c'est une défiance vis-à-vis des médias, vous le saviez mieux que moi. S'il faut compléter la démocratie représentative par d'autres mesures, moi j'y suis très ouverte.
Un référendum d'initiative présidentielle.
Aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, ce grand débat national, c'est une première dans le monde occidental. On n'a jamais fait quelque chose d'aussi large, avec autant de questions, autant de possibilités de prise de parole. La démocratie participative, elle est indispensable, mais elle n'est pas concurrente de la démocratie.
Encore une démocratie juste directe.
Avant de passer, le rétablissement de l'ISF, là encore, un certain nombre de gens le réclament. Là aussi, vous dites, ça on ne le fera pas?
Ce que nous avons dit, et ce qui a été voté par le Parlement, c'est qu'il y aurait une évaluation des résultats
au bout de deux ans.
Du changement de l'ISF au bout de deux ans. Comment est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, alors que le changement d'ISF en IFI a été décidé récemment, quelles en sont les conséquences, quel en est l'impact? Moi, je ne suis pas capable de vous le dire. Je peux vous dire pourquoi nous l'avons fait. Nous l'avons fait pour faciliter les investissements, pour créer des emplois. Si nous constatons d'ici deux ans que des emplois ont été créés, que des investissements se sont développés dans notre pays,
ça, c'est la règle qui est affichée.
On le saura, on ne peut pas savoir avant deux ans. Nathalie, c'est de la logique.
Pour conclure ce grand débat national, l'hypothèse d'un référendum est de plus en plus affichée par, visiblement, le pouvoir, et en l'occurrence Emmanuel Macron. Le jour des européennes, est-ce que vous, vous êtes favorable à ce type de consultation, au risque d'éclipser cette échéance européenne, Nathalie Loiseau?
D'abord, je trouve que le débat est prématuré, parce qu'en ce moment, nous avons le grand débat. Nous saurons ce que veulent les Français à l'issue de ce grand débat. Tout mélanger aujourd'hui, je pense que c'est semer de la confusion, c'est ce que font certains.
Ce que vous dites au président qui parle lui-même de référendum.
Il n'exclut rien, mais il n'a pas pris sa décision, et de toute façon, c'est lui qui
la prendra. Mais s'il doit la prendre, c'est dans les 8 jours ou 10 jours qui viennent, parce qu'il y a des questions de délai assez compliquées.
Écoutez, pour le moment, sa décision n'est pas prise. Mmh. Et ce que je dis en tant que ministre des Affaires européennes, c'est que je souhaite qu'on parle d'Europe le 26 mai, parce qu'il y a des enjeux majeurs, et que ces enjeux, il faut en parler, il faut les traiter. Et je le dis aussi à nos adversaires politiques, qui aujourd'hui parlent de référendum anti-Macron, ou mettent à la tête de leur liste aux européennes des gens qui ne s'intéressent pas à l'Europe.
On va y venir.
Je trouve que c'est se moquer des Français.
Mais à vous entendre, on a l'impression que vous n'êtes pas emballé par cette affaire de référendum en même temps que les européennes.
Je vous dis qu'il est trop tôt pour en parler, parce que le grand débat n'est pas terminé, que je ne sais pas ce que veulent les Français. Mmh. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y aura des réponses fortes aux demandes des Français qui sortiront du grand débat.
Quand est-ce qu'Emmanuel Macron prendra sa décision sur ce référendum, Nathalie?
Écoutez, ça n'est pas forcément ça la sortie. Oui. Et donc, il prendra ses décisions sur les mesures fortes à prendre à la sortie du grand débat quand nous aurons terminé le grand débat.
Et techniquement, d'un point de vue d'organisation des élections européennes, c'est jouable de faire le même jour un référendum et des élections? On y arrive?
Écoutez, demandez au ministre de l'Intérieur, mais à partir du moment où vous convoquez les Français pour une échéance électorale un jour, vous pouvez évidemment ouvrir à d'autres questions.
Y compris en posant plusieurs questions au référendum?
Écoutez, ce serait une première en France, mais j'ai aussi confiance dans nos institutions et dans leur capacité à s'adapter. Mais je redis ce qui est ma conviction personnelle. Le 26 mai, commençons à parler d'Europe, parce que c'est ce que nous avons à faire, c'est ce que nous devons faire, et c'est ce que nos adversaires ne veulent pas que nous fassions.
Est-ce que c'est Emmanuel Macron, juste Laurent Wauquiez dit ce matin même que Emmanuel Macron prendra un grand risque en cas de référendum, coupé des priorités des Français. Est-ce que du coup, vous n'êtes pas aussi sur la même longueur d'onde que Laurent Wauquiez sur ce risque de référendum?
Le risque d'un référendum coupé des priorités des Français, je note que Laurent Wauquiez s'érige en censeur de ce que sont les priorités des Français, alors même que les Français sont en train d'en débattre. Nous devons tous savoir écouter les Français, c'est ce que fait le gouvernement, c'est ce que fait le président. J'invite Laurent Wauquiez à en faire autant.
Christophe Jacubizi.
Est-ce que l'Europe, une fois de plus, il y a eu cette semaine la viande avariée qui venait de Pologne. On voit que sur les GAFA, par exemple, on a du mal aussi à trouver un accord en Europe pour taxer les grands groupes de l'Internet. Est-ce qu'au fond, semaine après semaine, l'Europe ne montre pas qu'elle est impuissante?
Alors, ne mélangeons pas tout. Ce qui s'est passé sur la viande polonaise, c'est un scandale polonais. C'est la presse polonaise d'opposition libre, il en reste. Et c'est une bonne raison de se préoccuper de savoir ce qui se passe dans la presse.
Mais c'est un scandale européen aussi, Nathalie Blaiseau, puisque cette viande vient d'un autre pays. Comment se fait-il? Il y a des normes. On nous dit qu'il y a toujours beaucoup de normes européennes pour nous protéger. Et là, elles ne protègent pas les consommateurs.
Ce qui s'est passé, c'est que c'est le commissaire européen qui a appelé les autorités polonaises pour s'étonner d'apprendre dans un journal qu'il y avait un problème avec un abattoir polonais. C'est donc un scandale polonais.
Mais c'est aussi un scandale européen parce que les autorités sanitaires européennes ne sont pas capables d'empêcher ce type de scandale. Il faut que la presse le révèle.
Et là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'Europe. Aujourd'hui, ce sont les autorités sanitaires nationales qui ont pour responsabilité de lutter contre les fraudes. Ça nous est arrivé en France. Souvenez-vous des lasagnes au cheval. Mmh. C'était pas si longtemps que ça. Ça arrive en Pologne avec des autorités sanitaires dont on dit qu'elles avaient sonné l'alerte mais qu'elles n'ont pas été entendues. Je l'ignore. C'est une raison de plus pour vouloir une Europe plus efficace. Nous, ce que nous demandons, et nous le demandons depuis déjà assez longtemps, c'est une force européenne d'inspection sanitaire. Les Français, les Européens, ont le droit de savoir ce qu'il y a dans leur assiette. Ont le droit de savoir quelle est la qualité de l'air qu'ils respirent, quelle est la qualité de l'eau dans laquelle ils se baignent ou qu'ils boivent. Et pour ça, parce que, en effet, les produits circulent, eh bien, il faut donner à l'Union européenne une responsabilité qu'elle n'a pas encore aujourd'hui.
Alexis Brézé.
Mais ce qui est derrière cette affaire, il n'y a pas un sujet qui se dessine et qui peut être au cœur de l'élection européenne, c'est la capacité ou non de l'Europe à protéger les peuples et les Français. Le président de la République lui-même en parle sur cette affaire de sanitaire, sur les affaires effectivement de GAFA dont on parlait à l'instant, sur l'immigration. Est-ce que l'Europe protège? Est-ce que ça va être un des sujets des Européennes?
C'est très exactement le sujet des Européennes. Nous avons depuis longtemps, depuis la campagne présidentielle et depuis que le président est en fonction et depuis que je travaille sur les questions européennes, notre motto, notre mot d'ordre, c'est une Europe qui protège. Et pour que l'Europe protège mieux les Européens, il y a des décisions à prendre. Mais ça n'est pas en essayant de la détricoter, comme le demande Madame Le Pen, que l'Europe protégera mieux les Européens. J'ai entendu la tête de liste du Rassemblement National aux Européennes, affoler les Français en disant que c'était de la viande avariée. Et pardon, Monsieur Jacquevizine, vous l'avez dit vous-même, c'est de la viande qui n'a pas été contrôlée par des vétérinaires. Toute la viande que nous avons récupérée est détruite. C'est de la viande qui n'a pas été contrôlée. Ça ne permet pas de dire qu'elle est avariée.
Mais
comment on n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. C'est simplement qu'elle n'a pas subi des contrôles. Donc Monsieur Bardella a fait ce que fait toujours le Rassemblement National, c'est-à-dire qu'il a agité la peur alors même que nous avons identifié tous les lots de viande qui ont circulé en France. Mais en même temps, il n'est pas capable de dire « il faut plus d'Europe ». Il est totalement incohérent.
Mais regardez, un autre exemple très concret. Mardi, peut-être, l'Europe va interdire la constitution d'un géant ferroviaire avec la fusion Alstom-Siemens. Est-ce que ce n'est pas aberrant que l'Europe interdise qu'on se dote de champions européens?
Alors moi, je ne critique pas la Commission pour appliquer les règles. Parce que la Commission, si elle n'appliquait pas les règles, elle ne serait pas dans son rôle. Mais ces règles, elles sont absurdes. Ces règles, elles ont été édictées au XXe siècle et nous sommes en 2019. Aujourd'hui, en Europe, il faut construire des champions européens.
Mais oui. Donc vous êtes pour une fusion Alstom-Siemens?
Évidemment que je suis pour une fusion Alstom-Siemens.
Mais alors l'Europe ne l'est pas. Comment est-ce possible que la France y soit favorable? L'Europe s'apprête à dire non.
Parce que les règles qu'applique la Commission sont devenues absurdes. Et notre volonté, ce pourquoi nous allons nous battre, et c'est aussi ce pourquoi nous allons défendre nos idées au moment des élections européennes, c'est pour changer ces règles de la concurrence.
Ça veut dire que dans la campagne des adversaires de l'Europe, vous pouvez dire, vous voyez, l'Europe ne protège pas d'un point de vue sanitaire, joue contre l'emploi et la croissance sur les champions industriels, ne protège pas contre l'immigration. Donc c'est quand même un sujet.
Mais qu'est-ce qu'ils proposent? Encore moins d'Europe, des pays encore plus faibles face à une concurrence chinoise, américaine, face à des géants qui sont soit les GAFA, qui sont des géants, des multinationales. Regardez, imaginons que demain, on défasse l'Europe, comme c'est le projet de Madame Le Pen. Eh bien, si nous étions seuls face à Google, Amazon, Facebook, Apple, quand nous fixons une amende à Google, parce que nous considérons qu'elle n'a pas respecté le règlement sur la protection des données, quand la CNIL française fixe une amende,
Commission nationale informatique et liberté,
elle fixe une amende de 50 millions d'euros. Quand l'Europe, quand Mme Vestager fixe une amende au GAFA, c'est 13 milliards d'euros. Est-ce qu'on n'est pas plus puissant? Est-ce qu'on n'est pas plus crédible au niveau européen, au niveau national?
La taxation des GAFA, l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord.
La taxation des GAFA, je suis optimiste. D'ici mars, nous aurons une taxe. Elle ne sera, de mon point de vue, pas suffisante. C'est la raison pour laquelle la France a pris l'engagement de fixer une taxe nationale. Mais pas seulement la France. L'Autriche, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie sont en train de faire de même. Nous sommes leaders sur ce sujet. C'est un sujet qui avance en Europe. C'est même un sujet qui avance dans l'OCDE. Aujourd'hui, il y a 127 pays qui sont d'accord avec nous. Les choses bougent.
Oui, mais les pays qui en Europe ne veulent pas.
Alors, Alstom-Siemens, quand même, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que la France va faire? Est-ce que vous allez essayer de faire en sorte que l'Europe autorise cette fusion ou est-ce que c'est perdu d'avance là, ça, c'est pour mardi si je comprends bien.
Alors d'une part, nous avons expliqué à la Commission européenne pourquoi nous pensions qu'il fallait aujourd'hui une fusion entre Alstom et Siemens pour se confronter à des géants et en particulier à un géant chinois qui il y a 10 ans était peu de choses et qui aujourd'hui travaille à l'échelle de la Chine, c'est-à-dire qu'il y a 100 fois plus de TGV en Chine qu'il n'y en a en France et en Allemagne réunis, 100 fois plus de lignes de TGV en Chine qu'il n'y en a en France et en Allemagne réunis, et que les conditions de concurrence aujourd'hui doivent être revues. Nous allons essayer de convaincre, et en tout état de cause, qu'il s'agisse d'Alstom Siemens ou d'autres sujets, aujourd'hui nous devons construire des champions européens. Alors, la politique de la concurrence en Europe, on a pensé exclusivement aux consommateurs et on a oublié de penser à la nécessité d'avoir des entreprises fortes. Aujourd'hui, je ne sais pas si on serait capable de faire Airbus en Europe.
Autre sujet d'actualité européen pour le moins épineux, c'est bien sûr le Brexit, un feuilleton sans fin. Est-ce que, Nathalie Ozazo, ce qui est le plus probable, c'est un no deal, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne sans accord?
D'abord, je voudrais récapituler pour nos auditeurs, pour les téléspectateurs, ce qui est en jeu, parce que c'est pas simple.
Essayez de nous expliquer, mais parce qu'on n'a pas, pas tout compris.
Et très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette première partie, Nathalie Loiseau.
Les Britanniques ont décidé, il y a 2 ans, de quitter l'Union européenne. C'est leur décision, nous la regrettons, mais nous la respectons. Ça fait 2 ans que nous essayons de respecter cette décision et d'organiser notre séparation. Quand on se sépare dans un couple comme entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il y a 2 possibilités. On se sépare à l'amiable ou on se sépare brutalement. Si on veut se séparer à l'amiable, il y a un accord de retrait qui a été négocié pendant 18 mois par Michel Barnier, qui a fait un travail formidable et qui a été accepté par les Britanniques. Cet accord est sur la table. C'est aux Britanniques de choisir. Soit ils acceptent cet accord, soit c'est une séparation brutale.
Est-ce qu'on peut repousser la date quand même? Est-ce qu'on peut repousser la date du 29 mars?
Pourquoi faire? Pourquoi faire?
Pour renégocier, pour donner de l'air à Theresa May, ou est-ce qu'elle est dans un déni de réalité?
Parce que c'est le gouvernement qui a accepté, mais les parlementaires ne veulent pas parce qu'ils disent que les conditions en fait, sont répondre. Pas bonnes.
Alors Nathalie Loiseau.
Écoutez, moi, dans cette affaire du Brexit, j'ai une préoccupation et une seule, c'est protéger les intérêts des Français, des entreprises françaises au moment du Brexit.
Mais c'est pas leur intérêt, un no deal, un divorce, comme vous le dites, sans accord.
L'intérêt des entreprises et des citoyens français, c'est d'abord l'accord de retrait tel que nous l'avons conclu.
Mais les Anglais n'en veulent pas, il y aura le no deal.
Mais les propositions que nous ont déjà fait les Britanniques et que nous avons déjà refusées, c'est-à-dire oublier qu'il y a une question à traiter sur l'Irlande, ce n'est pas l'intérêt des Français, ce n'est pas l'intérêt des entreprises, parce que ce serait laisser entrer dans le marché européen des produits éventuellement dérégulés.
On va revenir sur
le Brexit. Pardon, je voudrais terminer parce qu'on ne peut pas dire c'est compliqué et ne pas laisser expliquer. Ça serait laisser entrer dans le marché européen des produits, des services qui porteraient concurrence aux Européens. Moi, mon souci, c'est de protéger les Européens. Un mauvais accord serait beaucoup plus dommageable aux Européens qu'une absence d'accord.
On va y revenir dans la deuxième partie, mais c'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour, Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France. Madame la ministre, 2 ans après l'accord migratoire entre l'Italie et la Libye, plus de 5300 femmes, enfants et hommes ont trouvé la mort en Méditerranée. De nombreux milliers d'autres sont aussi renvoyés en Libye, qui est un théâtre répété de violations des droits humains. Face à ce qui est une véritable tragédie humaine, allez-vous accepter de soutenir des procédures pour assurer les débarquements et la répartition des personnes secourues entre les membres de l'UE, mettre fin à ces renvois criminels vers la Libye, ou resterez-vous complice?
Nathalie Loiseau.
Je me demande pourquoi Cécile Duflot me pose la question à moi et pas à Matteo Salvini et à Luigi Di Maio. Parce que à chaque fois... Ministre de l'Intérieur italien. À chaque fois que des naufragés ont été secourus en mer par des ONG ou par des bateaux qui ont rempli leur devoir d'humanité, à chaque fois nous avons répondu présent, à chaque fois nous avons organisé la répartition de ces naufragés entre pays européens de bonne volonté, à un moment où l'Italie n'acceptait plus les règles du droit de la mer et les règles de l'humanité, qui étaient de débarquer ses passagers dans les ports les plus proches. À chaque fois nous avons répondu présent, la semaine dernière encore. Et les Italiens le reconnaissent, ils nous parlent d'axe Rome-Varsovie ou d'axe Rome-Vienne ou que sais-je. Quand ils ont besoin d'amis pour recueillir des naufragés. Ces naufragés ne sont pas recueillis en Pologne, ils ne sont pas recueillis en Hongrie, ils ne sont pas recueillis en Autriche. C'est la France qui le présente.
Nathalie Loiseau, c'est votre grand jury. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission. A tout de suite.
RTL, il est midi et demi.
Un point sur l'information avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. L'hypothèse d'un référendum pour répondre à la crise des Gilets jaunes, il serait organisé après le grand débat national le même jour que les élections européennes, soit le 26 mai prochain. Une hypothèse qui revient avec de plus en plus d'insistance. Mais Emmanuel Macron n'a pas encore pris sa décision, assure Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes et l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. L'idée de mélanger l'élection européenne et un référendum est prématurée, selon elle. Elle salue le grand débat, c'est une première dans le monde. Monde occidental, selon Nathalie Loiseau. Après les fortes chutes de neige qui ont paralysé les transports entre le Massif central et les Alpes la nuit dernière, la circulation a pu reprendre ce matin, indique la préfecture de l'Isère. Que ce soit les trains, les avions ou les voitures, circulation fluide sur l'A48 dans les deux sens, mais la préfecture conseille vivement aux automobilistes de prévoir des équipements spéciaux. Des faux policiers interpellés cette semaine en région parisienne, 6 hommes âgés entre 45 et 60 ans. Trois d'entre eux ont été mis en examen pour des vols en Réunion dans le Grand Est. L'un d'entre eux se faisait passer pour un plombier ou un agent municipal pour rentrer chez ses victimes. Quelques minutes plus tard, des faux policiers intervenaient pour l'interpeller et en profitaient pour cambrioler plusieurs véhicules. Des bijoux, des montres ainsi que 30 000 euros en liquide ont été saisis lors des interpellations. Un espoir pour les proches d'Emiliano Sala. Les recherches sous-marines commencent aujourd'hui dans la Manche sur la trace de l'avion qui transportait l'ancien footballeur nantais. Une société privée spécialisée a été mandatée par la famille d'Emiliano Sala grâce aux fonds récoltés sur Internet. Le pape François tend la main à l'islam. Le chef de l'église catholique s'envole aujourd'hui pour les Émirats Arabes Unis. Il va passer deux jours à Abu Dhabi pour une visite consacrée au dialogue interreligieux. C'est le premier voyage d'un pape dans la péninsule arabique. Et avant de décoller pour ce déplacement, le souverain pontife a demandé le respect des accords de trêve au Yémen. Elles ont plus de 2000 ans, mais sont toujours dans un bon état de conservation. Découverte surprenante en Égypte, plus de 40 momies datant de la dynastie ptolémaïque ont été présentées en grande pompe par le gouvernement égyptien, mises à jour grâce à des fouilles archéologiques dans les catacombes. Près de 4 Français sur 10 se connectent tous les jours sur Facebook, réseau social extrêmement populaire, alors qu'il est pointé du doigt pour avoir servi de relais à la crise des Gilets jaunes. Facebook n'a ni créé ni amplifier ce mouvement, assure ce matin son président français dans les colonnes du journal du dimanche. Le football ce soir, un duel entre le leader et le troisième du classement, Lyon-Paris-Saint-Germain. Coup d'envoi à 21h dans Soir de Ligue 1 sur RTL. À suivre également dès 15h, Nîmes recevra Montpellier cet après-midi également dans le championnat anglais. Notez que Manchester City affronte Arsenal, ce sera à partir de 17h30. Et puis aux États-Unis la nuit prochaine, le rendez-vous à ne pas rater si vous aimez le football américain, c'est la finale du Super Bowl, grande messe télé. Visuel. Les Los Angeles Rams affrontent les New England Patriots. La météo, cet après-midi, des violentes rafales de vent sur les Pyrénées-Orientales, soyez prudents. On pourrait avoir encore de la neige entre le Massif central et les Alpes. 5 départements sont maintenus en vigilance orange. Les conditions de circulation sont toujours délicates. Pour demain, on annonce une nouvelle dégradation par l'ouest au petit matin. Ça donnera un petit peu de neige dans le courant de la matinée entre le nord, l'Île-de-France et le centre. Les pluies vont se concentrer dans le sud-ouest l'après-midi alors que les nuages domineront partout ailleurs, sauf des Alpes à la Méditerranée où il fera beau toute la journée. Les températures maximales demain, elles seront de 2 degrés à Langres, 4 degrés à Dijon, 5 à Lille, à Strasbourg et à Paris, 9 à Toulouse et à Avignon, 11 degrés à Cherbourg, 15 à Nice, Ajaccio et à Toulon. Les courses à Vincennes, dernier rappel des pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet, le 15, le 13, le 16, le 14, le 18, le 10, le 12 et le 11. Dans un instant, la suite du grand jury.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Alexis Brézé du Figaro et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Avant d'en revenir aux élections européennes, Nathalie Loiseau, parlons un instant du Venezuela, hein, puisqu'il y a des manifestations d'ampleur. Et c'est aujourd'hui qu'arrive la fin de l'ultimatum posé par l'Union européenne à Maduro, le président actuel. L'Union européenne lui demande d'organiser des élections présidentielles. présidentielle. Sinon, eh bien, c'est son opposant Juan Guaido qui sera reconnu comme président du Venezuela. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la position de l'Union européenne et de la France ? Est-ce que l'ultimatum arrivant à échéance, le président Maduro n'ayant pas accepté la condition que vous avez émise, est-ce que vous reconnaissez Juan Guaido comme le nouveau président du Venezuela ?
D'abord, je voudrais revenir sur ce qu'est la tragédie vénézuélienne. J'ai passé une grande partie de ma journée hier avec une artiste vénézuélienne qui a longtemps soutenu le régime Chavez à l'époque. Et elle était désespérée par une tragédie. Un pays où il y a 1 000 000% d'inflation, où vous avez des personnes âgées qui se nourrissent dans les poubelles, où vous n'avez plus de médicaments, vous avez plus de 3 millions de Vénézuéliens qui ont fui le pays. Elle m'expliquait qu'elle était en train de faire partir toute sa famille. Et ce sont des gens qui ont cru dans leur pays. Un pays où on tire à balles réelles sur la foule. C'est de ça dont nous parlons, c'est pour ça que nous en parlons, avec une population qui aujourd'hui manifeste largement, courageusement, pour demander des élections présidentielles libres.
Et donc,
parce que l'élection de M. Maduro, en mai dernier, c'était une farce, c'était une fiction d'élection. Ce que répond jusqu'à présent M. Maduro, c'est « je vais organiser des élections législatives ».
Oui, c'est ce qu'il a redit là. Oui.
Sous-entendu, je veux me débarrasser du président du Parlement, M. Guaido, qui est justement soutenu par les manifestants. Là encore, cette réponse est une farce tragique. L'ultimatum se termine ce soir. Si d'ici ce soir, M. Maduro ne s'engage pas à organiser des élections présidentielles, nous considérerons que M. Guaido est légitime pour les organiser à sa place.
Mais visiblement, c'est ce
qu'il
va se
passer. Pour les organiser à sa place, mais pas pour être président à sa place.
Et nous le considérerons comme le président par intérim, jusqu'à des élections légitimes du Venezuela.
Donc les conditions de l'ultimatum sont remplies ce soir.
Ce soir.
Alors, revenons aux élections européennes. Vous êtes, depuis le début de cette émission, bien une fervente défenseuse de l'Union européenne. Et puis, certains bien vous imaginent comme tête de liste d'En Marche. Il y a dans cette salle, je le précise, Stéphane Séjourné, directeur de la campagne de La République En Marche. Il a été désigné par le président Macron. Il a quitté ses fonctions à l'Élysée pour s'y consacrer. Donc c'est peut-être un signe. Est-ce un signe, Nathalie Loiseau, serez-vous tête de liste d'En Marche en mai prochain?
C'est un signe de mon engagement pour une Union européenne différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Vous l'avez entendu dans la première partie de l'émission. Nous ne sommes pas des euro-béats.
Ça veut dire oui?
Nous sommes des euro-exigeants. Je suis là où je suis utile. J'aime me sentir utile. Aujourd'hui, j'espère être utile dans ce que je fais. Et demain, j'irai là où je serai
utile. Si on vous le demande, si le président de la République vous le demande.
Écoutez, je n'ai jamais réfléchi sur d'ici et je n'ai jamais pensé à moi. Je pense à faire ce que j'espère être utile. Je fais de la politique pour changer les choses là où je suis.
Mais vous ne dites pas non, Nathalie Loiseau.
Je ne vous réponds pas.
Et est-ce que
ça
vous
ne nous a pas échangé.
Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous en avez envie?
Ça ne nous a pas échappé.
Il faut avoir
de
l'envie.
Je participerai avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de vigueur à une campagne que je pense indispensable. Parce que si je suis entrée en politique, c'est à cause d'une inquiétude forte et d'une envie forte. Une inquiétude forte de laisser le pouvoir en France et en Europe à des extrémistes qui sont dangereux pour notre pays, qui sont dangereux pour notre avenir. Une espérance forte, l'espérance de pouvoir construire une Europe à la hauteur de ces défis qu'elle rencontre, à la hauteur des attentes des Français par rapport à elle, à la hauteur du moment historique que nous traversons.
Non mais vous avez l'habitude d'être lâche, on l'a vu en début d'émission. Est-ce que vous excluez totalement d'être cette tête de liste, Nathalie Loiseau ?
Je vous dis que je serai là où je serai utile.
Donc si le président vous dit « vous serez utile là, Nathalie », ou je ne sais pas s'il vous tutoie...
Et s'il le dit à quelqu'un d'autre, et avec des « si », on mettrait Paris dans une bouteille.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, je suis pleinement occupée. La politique, c'est être pleinement à ce qu'on fait, c'est ce qu'on doit à nos concitoyens. Aujourd'hui, je suis pleinement à faire en sorte qu'il n'y ait plus de scandale sanitaire en Europe. Je suis pleinement à faire en sorte que le Brexit se déroule en protégeant les Français. C'est mon travail, c'est ma mission, et si j'étais en train de penser à ma personne, je trahirais les Français.
Nathalie Loiseau, qui a dit « il faut changer l'Europe pour préserver l'âme des peuples et leur identité, il faut que les Français reprennent le contrôle de leur destin ».
Je ne sais pas.
Emmanuel Macron.
Ça ne me surprend pas.
Ça aurait pu être les propos de ce que vous appelez les populistes, non ? Reprendre leur destin, préserver l'âme des peuples et leur identité. On a l'impression, au fond, que, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut changer l'Europe, que finalement les discours se sont rapprochés. Marine Le Pen, elle, ne veut plus sortir ni de l'euro, ni de l'Europe. Est-ce que vous ne dites pas un peu la même chose en ce moment ?
Non, ce que vous soulignez à juste titre, c'est que Marine Le Pen change d'avis comme elle change de collaborateur. Quand Mme Le Pen était assistée de M. Philippot, elle voulait sortir de l'Europe, elle voulait sortir de l'euro. Aujourd'hui, M. Philippot est parti, elle a changé d'avis. Elle a surtout vu, comme beaucoup de populistes en Europe, que les Européens ne veulent pas détruire l'Europe. Et donc, elle nous dit « je ne veux pas la détruire puisque, apparemment, je n'ai pas de succès quand je dis ça », mais elle ne nous dit pas ce qu'elle veut en faire. Et quand vous écoutez, quand vous essayez de comprendre, et parfois c'est compliqué, ce qu'elle veut faire de l'Europe, puisque finalement son sujet c'est d'être anti-Macron du début à la fin, elle n'a aucun projet, elle ne construit rien. Et quand elle dit « on arrive », alors là c'est vraiment se moquer des Français. Ça fait 5 ans que le Rassemblement National est le premier parti de France au Parlement européen.
Donc, c'est important pour vous.
Quel bilan ? Ben, ce ne sont pas pour moi, ce sont des sortants tout court.
Ce que vous voulez dire,
court.
Christophe, en citant ces propos du président de la République devant quelques journalistes, c'était qu'on a quand même le sentiment que finalement le logiciel de campagne qui semblait se dessiner, la bataille des progressistes, vous contre les nationalistes, les populistes, les autres, que ce logiciel-là, finalement, n'est plus aujourd'hui le bon. Puisque quand on dit « il faut préserver l'âme des peuples », on n'est plus dans la bataille des progressistes contre les nationalistes.
Alexis Brézé, vous êtes déformé par vos fonctions. Vous pensez que la confrontation entre les populistes et les progressistes, c'est un logiciel de campagne. Moi, je vais vous dire, c'est ma vie quotidienne. C'est ce que je vis quand, autour de la table du Conseil des ministres européens, j'ai des gens qui m'expliquaient qu'il fallait déporter des demandeurs d'asile en dehors de l'Union européenne. Et qu'il a fallu leur dire que c'était de la déportation d'êtres humains et qu'on ne le ferait jamais. Ça n'est pas un logiciel de campagne quand j'ai en face de moi des gens qui veulent porter atteinte ou qui portent atteinte à l'indépendance de la justice dans leur pays.
La campagne sera celle des progressistes contre les populistes.
Et c'est pas une campagne, c'est notre
campagne européenne.
Et c'est notre lutte.
Il faut bien un thème de campagne pour les européennes.
Mais non, mais il faut pas un thème de campagne, il faut un projet. Nous avons un projet qui est une Europe en maîtrise de son destin.
L'âme des peuples, leur identité, c'est un projet, c'est un slogan de campagne que ne désavoueraient pas certains populistes en Europe.
Mais parce que les populistes, ils sont prêts à prendre tout ce qui passe et à essayer de vous dire que ça peut faire un projet. Mais déjà, les populistes européens, ils sont d'accord en rien.
Mais vous parlez des populistes, je vous parle de vous.
Non, vous me parlez des populistes, donc je vous réponds.
Je vous dis que c'est le président qui dit l'âme
des peuples
et leur identité.
Eh bien, parlons de l'identité européenne.
Il parle de l'identité française, le président.
En ce moment, au Parlement européen, nous sommes en train de nous battre pour que les auteurs, les créateurs européens puissent voir leurs droits reconnus par les plateformes numériques. C'est un vrai combat identitaire et culturel. Faire en sorte que les créateurs en Europe, français, allemands, autrichiens, italiens, que sais-je, puissent voir leurs droits reconnus. Est-ce que vous croyez que Mme Le Pen est présente dans ce combat ? Elle n'est jamais présente sur ces combats-là. Le Rassemblement National...
Mais ça bloque. Attendez, la colonie, c'est Jordan Bardella pour parler de Marine Le Pen. C'est Jordan Bardella.
Jordan Bardella, pour le moment, il est tête de liste.
Il est jeune, il est nouveau.
Je vous parle des parlementaires.
Il va reprendre les thèses de Marine Le Pen in extenso.
Benjamin Sportouche, je vous parle des députés européens français les plus nombreux. Ceux qui auraient pu, depuis 5 ans, faire une différence au Parlement européen en portant à Strasbourg le discours qu'ils portent à Paris. En réalité, ils ont toujours fait le contraire. Ils ont terrorisé les Français sur le terrorisme. Et quand, au Parlement européen, il y a eu la première loi permettant de lutter contre le terrorisme, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont voté contre. Ils ont fait campagne à la présidentielle contre le travail détaché. Quand nous sommes arrivés avec une mobilisation exceptionnelle à pouvoir enfin réglementer le travail détaché d'une manière satisfaisante, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont voté contre. Ils se moquent des Français, ils racontent n'importe quoi.
Exemple.
Le seul souvenir que les parlementaires européens gardent des parlementaires Front National, ce sont des mises en examen pour détournement de fonds publics et pour emploi fictif.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu caricatural, Nathalie Loiseau, sur votre compte Twitter, vous écrivez « Tous les leaders populistes sont issus de la bourgeoisie et beaucoup sont des héritiers ».
Je répondais à Christophe Gigaudeau qui disait « Depuis le début de la Ve République, on a vu que des bourgeois président de la République. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ceux qui sont caricaturaux, c'est Madame Le Pen qui dit qu'elle est auprès des travailleurs, qu'elle est auprès des gens qui souffrent, qu'elle est auprès des gilets jaunes. Madame Le Pen est une héritière, elle a hérité de son père, elle a hérité du parti de son père, et elle a hérité des idées de son père. Mais Madame Le Pen, elle est hostile à l'augmentation du SMIC. Je me demande si elle est allée sur les ronds-points le dire aux gilets jaunes.
Est-ce que vous pensez, alors que le traité européen a été rejeté par référendum en 2005, qu'on a eu tort de le reprendre grosso modo à l'identique en 2007?
Je pense profondément qu'on a eu tort. Je pense profondément.
Parce que ça, c'est, par exemple, c'est une des choses qui nourrit chez Marine Le Pen et d'autres le sentiment qu'on ne respecte pas la volonté des Français, notamment sur ces questions européennes.
Je pense profondément qu'on a eu tort. Mais je pense aussi que le recours.
Il a dit la même chose que François-Xavier Bellamy, il a dit la même chose cette semaine. Il dit qu'on.
François-Xavier Bellamy, il dit.
Donc, tête de liste des Républicains.
François-Xavier Bellamy dit une chose différente tous les jours. Mercredi, il est interrogé sur le Brexit. Il explique qu'il faut rouvrir la négociation parce que finalement l'accord de retrait serait mauvais pour les Britanniques.
Et puis il reçoit un coup de fil de Michel Barnier
qui lui explique. C'est pas de sa faute, Monsieur Bellamy, il s'est jamais intéressé d'Europe avant d'être tête de liste aux européennes. Ça en dit long sur le respect qu'a Laurent Wauquiez et qu'ont les Républicains sur les enjeux européens. Ils mettent à la tête de liste pour les européennes quelqu'un qui a des engagements qui sont les siens, qui ne sont certainement pas les miens, qui a une trajectoire respectable, mais qui ne sait pas de quoi il parle. Et donc, évidemment, une fois qu'il s'est fait expliquer par quelqu'un qui comprenait, il nous dit le lendemain, finalement, cet accord de retrait, il est très bien, il faut maintenir l'unité des Européens. Donc, excusez-moi, mais ce que dit M. Bellamy, je m'y perds un petit peu.
Sur les positionnements de François-Xavier Bellamy, et notamment contre la PMA et la GPA, vous-même, est-ce que vous êtes pour la PMA et pour la GPA ?
J'ai des convictions personnelles, je les ai écrites dans un livre. Je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Mais parce qu'aujourd'hui, je suis membre d'un gouvernement, mes convictions personnelles ne regardent pas...
PMA et pour la GPA. C'est vos convictions personnelles, Nathalie Loiseau.
C'est ce que j'ai écrit, c'est ce que je pense. Mais en tant que membre du gouvernement, ça n'est pas là-dessus que je dois me déterminer. J'écoute les Français. Mais mes convictions personnelles sont effectivement à des années-lumière de celles de M. Bellamy, je vous le confirme. En particulier sur l'IVG, parce que je veux bien que ce soit ses convictions personnelles, mais je l'ai entendu dire souvent qu'il était personnellement hostile à l'IVG. Je l'ai aussi entendu dire récemment qu'il pensait que aimer les hommes quand on était un homme, c'était un choix. Et j'invite à réfléchir à ce qu'il y a derrière une affirmation de ce type.
Mais sur
on
la
est
GPA,
homosexuel sur par la... choix oui. pour M. Bellamy.
Mais sur la GPA, Nathalie Loiseau, vous avez une position un peu singulière, vous le dites, c'est-à-dire vous êtes pour...
Je suis pour une GPA éthique.
Ben vous êtes pour une GPA.
Éthique.
Oui, c'est-à-dire encadrée, mais vous êtes pour la GPA.
Je suis contre la marchandisation des corps, quelle qu'elle soit, mais je ne vois pas pourquoi on se préoccupe de la marchandisation des corps quand il s'agit de GPA et quand les mêmes ne se demandent pas dans quelles conditions travaille une ouvrière du Bangladesh qui peut avoir 12 ans et qui peut risquer sa vie pour fabriquer les t-shirts que l'on porte en toute bonne conscience.
Donc vous pensez que si la PMA, il y aura GPA derrière,
deux aussi la suite, non mais...
Je ne pense que les deux n'ont rien à voir. Si moi je suis favorable aux deux, ça me regarde en tant que personne. Je ne dis absolument pas que la PMA entraîne la GPA.
Christophe Jacubizine.
Bon, on vous a entendu là parler de François-Xavier Bellamy, de Bardella aussi pour le Rassemblement National, en soulignant leur peu d'appétit pour l'Europe, leur peu de connaissances, dites-vous. Au fond, vous êtes en train de dresser le portrait robot du candidat idéal pour La République En Marche, c'est-à-dire vous.
Non, le portrait robot d'un candidat idéal pour La République En Marche, c'est quelqu'un qui a des convictions européennes. Et c'est vrai que ça tranchera avec les adversaires de La République En Marche. Et d'ailleurs, pardon de vous corriger, mais on ne parle pas d'une liste de La République En Marche. On parle d'une liste de majorité large, de pro-européens qui ont des... Mais quand je dis pro-européens, ce sont des gens qui ont des exigences.
Avec Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé.
Une liste large. Et Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé n'ont pas une feuille de papier à cigarette de différence entre ce que...
Mais l'un ou l'autre pourrait être tête de liste à propos.
Demandez-leur. Je ne crois pas qu'ils en aient le souhait, mais demandez-leur. Ce n'est pas moi. Je ne suis porte-parole ni de l'un ni de l'autre, même si j'ai gardé une fidélité et une amitié forte pour Alain Juppé.
Mais quand connaîtrons-nous, oui, vous êtes juppéiste hein, de formation, d'éthique. Est-ce que, quand connaîtrons-nous la tête de liste? Parce que c'est vrai, vous critiquez Jordan Bardella, vous critiquez aussi François-Xavier Bellamy, mais au moins ces deux grands partis structurants aujourd'hui ont une tête de liste. On attend
vous
toujours
êtes sûr
celle
que
de la République
sont des
en
grands
marche.
Partis structurants
en tous les cas, on le voit dans les urnes. Pour ce qui concerne le Rassemblement national, puisqu'il est en tête des sondages.
Oui,
je vous pose la question sur...
Ça dépend des sondages. C'est le premier parti
Nathalie Loiseau, est-ce qu'il est normal que vous n'ayez... Quand connaîtrons-nous la tête de liste de La République En Marche?
Quand ça intéressera les Français? En ce moment, les Français sont dans le grand débat.
Donc après le grand débat, on ne saura rien avant le grand débat.
En ce moment, les Français sont dans le grand débat.
Donc après le 15 mars.
2014, les têtes de liste ont été connues début mars.
Bon, donc vous avez le temps.
Donc
vous avez le temps de vous préparer aussi.
Vous disiez que François-Xavier Bellamy n'a pas d'expérience. Quelqu'un qui en a, c'est Arnaud Danjean, député européen sortant, que vous connaissez bien, puisqu'il était juppéiste. Alors lui, le diagnostic qu'il fait aujourd'hui...
Je le connais bien, mais pas parce qu'il a été juppéiste, parce qu'il est parlementaire européen.
Bien sûr. Et alors lui, il dit, la France se retrouve isolée dans une Europe qu'elle a contribué à diviser, la France, parce qu'elle a stigmatisé tous ces pays qui ne seraient pas progressistes. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette analyse-là? Est-ce qu'on a divisé l'Europe en disant il y a d'un côté les progressistes et de l'autre côté les populistes?
Écoutez, je reviens de Pologne, ce qui n'est pas le cas de M. Danjean, et je prépare le voyage en Pologne du président de la République. Donc là encore, M. Danjean, s'il s'informait davantage, saurait que nous parlons à tout le monde, ce qui n'a malheureusement pas été le cas.
Lui dit, on donne trop de leçons aux uns aux autres, on n'arrête pas de dire ce qui est le bien et le mal.
C'est vrai que les Républicains... depuis 8 ans, ont décidé de fermer leurs yeux et leurs oreilles aux violations de l'état de droit dans l'Union européenne. C'est vrai que les Républicains disent que Viktor Orban, qui étouffe le pluralisme de la presse dans son pays, qui étouffe l'indépendance de la justice, c'est l'enfant terrible de la famille. Ils ont choisi de minimiser en pensant que si on ne disait rien, le populisme allait diminuer. C'est en se taisant par lâcheté que le populisme a grandi. Nous, nous avons décidé d'être courageux, de ne pas nous taire. Est-ce que ça nous empêche de travailler avec ces pays-là? Absolument pas. Quand nous avons des points de convergence, nous les faisons progresser. Convaincre les populistes chaque fois qu'on peut, les combattre chaque fois qu'on doit, c'est mon éthique dans l'Union
Nathalie
européenne.
Nathalie Loiseau, il y a une autre question qui se pose de manière récurrente, c'est l'élargissement de l'Union européenne. Laurent Wauquiez a encore dit qu'il y était opposé. Est-ce que la question de l'entrée, la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne est toujours d'actualité ou la porte est définitivement close?
Laurent Wauquiez, lui aussi, change beaucoup d'avis puisqu'il a été ministre des Affaires européennes et il a ouvert l'élargissement au Monténégro. Là où, dans mon poste, à ma responsabilité, je me suis opposée l'an dernier à débuter les négociations d'adhésion avec l'Albanie et avec la Macédoine, simplement parce que l'Union européenne n'est pas prête et parce que ces pays ne sont pas prêts.
Mais sur la Turquie, Nathalie Loiseau.
Sur la Turquie, Emmanuel Macron est le premier chef d'État européen à avoir assumé sa responsabilité, à avoir dit aux Turcs et à avoir dit à l'Union européenne que la Turquie avait fait le choix de s'éloigner des valeurs européennes et que, à cause de ce choix, il n'était pas possible de poursuivre les négociations pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.
Pour l'instant.
Si demain les Turcs faisaient un choix démocratique, pro-européen, nous en reparlerions. Aujourd'hui, il est hors de question de négocier avec le régime de M. Erdogan et les choix qu'il a faits.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour Nathalie Loiseau. Alors les internautes ont bondi de colère quand ils ont entendu votre réponse sur la viande polonaise. Pour eux, la viande est avariée. Fabrice vous accuse de mensonge et l'internaute derrière le pseudo recette française dit c'est une mascarade, l'Europe n'a jamais protégé les peuples au niveau sanitaire. Ils n'ont pas compris du tout votre réponse. Qu'est-ce que vous dites pour les rassurer ?
Nathalie Loiseau.
Je leur dis que nous devons faire des progrès, que c'est la raison pour laquelle nous voulons qu'il y ait une responsabilité européenne. Ce sont les États européens qui ont refusé jusqu'à présent que l'Europe inspecte les abattoirs, un jour en France, un jour en Pologne, un jour ailleurs. Il faut plus d'Europe. Réclamer la création de cette force européenne.
Mais est-ce qu'il faut en enquête de la répression des fraudes? Est-ce qu'il faut une enquête en France, aujourd'hui?
Écoutez, en France, en 72 heures, on a été capable d'identifier les 900 kilos de viande polonaise qui avaient circulé en France. La plupart ont été détruits, ceux qui ont été vendus On parle d'une dizaine de boucheries, de quelques restaurants dans 3 départements en France, dans le Loiret, dans l'Ille-et-Vilaine et à Paris. Les boucheries ont mis des affichettes pour conseiller aux gens qui avaient acheté de la viande de la rapporter. Donc il y a en France un système sanitaire qui fonctionne. Et s'agissant de l'Union européenne, je voudrais vous donner un chiffre. 2013, en Chine, dans l'année 2013, 40 000 scandales sanitaires. En Europe, la même année, 40. C'est 40 de trop, mais sachons que nous sommes l'espace le mieux protégé au monde. Il faut toujours être plus exigeant. Les Français, les Européens ont le droit de manger, de respirer, de boire en toute sécurité. Et pour ça, il faut faire plus.
Marie-Pierre Haddad, question.
Oui, l'autre sujet, dans tout le lot des doléances qui remontent du grand débat national, il y a certains Français qui réclament la suppression de l'ENA. Donc, par exemple, sur Twitter, Gérard qualifie Emmanuel Macron de pur produit technocratique formaté à l'ENA. Ma personne est sacrée. Cet internaute dit qu'il faut un renouvellement de la classe politique et que ça passe justement par une réforme de l'ENA. Et il y a aussi un commentaire plus rare, mais qui existe quand même, c'est celui de Thibault, qui milite pour le maintien de l'ENA. Pourquoi ? Parce que administrer des services de l'État, eh bien ça s'apprend, d'après lui. Donc vous, vous avez été directrice de l'ENA pendant 5 ans, de 2012 à 2017. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réformé l'ENA ?
Mais j'ai réformé l'ENA, simplement. Ce qu'on fait en 5 ans...
Ça les a pas convaincus, en tout cas.
Ce qu'on fait en 5 ans, ça, les résultats ne se voient pas tout de suite. J'ai dans cette salle un ancien élève qui pourra peut-être, après l'émission,
c'est
vous dire
Stéphane, c'est... si c'était bien ou pas bien. Journée, hein,
c'est pas Stéphane, mais moi-même, je ne suis pas ancien élève de l'ENA. Il y en a un dans la salle.
Mais comment vous percevez ces critiques qui viennent de tous les horizons, y compris à l'intérieur même
du gouvernement
et de l'Élysée, sur finalement les gilets jaunes, c'est parce que les technocrates ont pris trop de pouvoir, ils sont trop éloignés des Français, c'est la faute aux technocrates, donc aux élèves de l'ENA, donc un peu la vôtre.
Et Gérald Darmanin, je précise, veut mettre à la retraite d'office 500 à 1000 hauts fonctionnaires pour faire des économies. Je ne sais pas si c'est du... Ça peut vous plaire, ça.
Mélangeant tout ou pas, s'agissant de l'ENA...
Ils sont souvent de l'ENA.
Réformer les écoles qui forment les fonctionnaires. Il y a l'ENA, il y en a d'autres, il y en a plus de 60 en France. C'est toujours nécessaire, c'est nécessaire de manière régulière, parce que les attentes changent, les défis changent, et la manière de les traiter change. Simplement, quand vous conduisez une politique publique, c'est compliqué. Quand vous montez en avion, vous avez envie que le pilote ait été formé au pilotage de l'avion. Quand vous confiez à des fonctionnaires la responsabilité de conduire une administration, vous avez envie qu'ils aient été formés. Donc des écoles à la hauteur des attentes, oui, considérez qu'il n'y a pas de formation. Je vous amène à une certaine précaution. Certains pays l'ont fait. On considérait qu'il valait mieux ne pas former les hauts fonctionnaires. En général, ils ont choisi des fonctionnaires politisés, loyaux au régime en place, et ça n'a pas donné de bons résultats.
Dernière question en 30 secondes, Nathalie Loiseau, parce que Laurent Wauquiez reste opposé au retour des djihadistes au nom de la sécurité des Français, à une trentaine qui doivent revenir de Syrie. Est-ce que vous maintenez le fait qu'ils rentreront en France ?
Le gouvernement a une priorité, c'est la sécurité des Français. Et le gouvernement a une conviction, c'est que tous ceux qui ont agi en commettant des délits ou des crimes doivent être traduits en justice. Quand ils peuvent être traduits en justice en Irak, qu'ils le soient, et ils le sont. Si, parce que la situation en Syrie évolue et qu'il y a un risque que ces personnes soient dispersées et ne soient jamais traduites devant la justice, il faut les rapatrier en France, faisons-le.
Merci beaucoup Nathalie Loiseau, c'était votre grand jury, votre premier grand jury. Très belle semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine.